5, 4, 3, 2, 1, t'es top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Et bienvenue dans cette auberge espagnole du mardi 22 janvier de l'an de grâce ou de disgrâce 2013. On parlera en fin d'émission d'une exposition à voir, une exposition dans le cadre des 20 ans de la célèbre maison d'édition alternative Six Pieds Sous Terre qui lançait mercredi dernier. Donc cette expo à voir au Diagonal en avant-goût de ce qui se passera dans le cadre du micro-festival début février. On aura Christophe Bauer de l'atelier En Très Libre et Julie Jourdan pour Six Pieds Sous Terre qui viendront accompagné d'un des auteurs ou d'une des auteurs exposés. Six pieds sous terre, l'animal à 20 ans, c'est au cinéma Diagonal. Juste avant, on fera un petit tour d'horizon du festival du Black Sheep. Nous n'aurons pas quelqu'un du Black Sheep en poil et en os. Mathias, si tu nous entends, réponds à ton téléphone. Une programmation toute léchée pour cette deuxième édition du Black Sheep Festival. Ce sera donc ces 25 et 26 avec deux soirs qui réuniront 8 groupes, pas moins. Et puis, on va démarrer cette auberge espagnole avec une interview de Michael Delafosse, adjoint au maire de Montpellier, délégué à l'urbanisme au micro de Vincent Pourageau. Un entretien réalisé lors de la présentation de presse des ateliers citoyens mis en place par la ville de Montpellier pour débattre et élaborer les nouveaux grands projets d'urbanisme. C'est une conférence donnée le 15 janvier. Après une petite pause musicale en matière de ville, eh bien, si vous rêvez d'une ville des fesses, eh bien, c'est Black Joey Lewis and the Honey Bears.
I'm
Black Joey Lewis and the Honey Bears, Booty City. Booty, ça veut dire aussi bougez vos fesses. Les Montpelliérains, les Montpelliéraines ont-elles de belles fesses? Sans doute, mais la beauté des fesses est quelque chose qui passe avec l'âge, car Montpellier est une ville qui se transforme.
La ville de Montpellier, c'est une ville qui se transforme, qui change, qui est en mouvement, parce qu'à la fois elle accueille des nouveaux habitants et en même temps elle se transforme pour s'efforcer d'améliorer la qualité de vie des habitants à travers par exemple le réseau de tramway, de nouvelles infrastructures, les nouveaux quartiers, la réalisation de l'Agriparc par exemple au Masnouguet. Mais ces changements, eh bien, la municipalité portée à travers la politique d'urbanisme doivent peut-être faire l'objet d'un dialogue accru avec la population pour amplifier un processus de démocratie participative. Il y a la requalification des 35 hectares de l'EAI, 35 hectares dans la ville, où nous avons un engagement très fort de réaliser un grand parc, un grand poumon vert, desservi par la ligne 5 de tramway de 15 hectares. Et donc pour réaménager ce quartier, eh bien, nous souhaitons continuer à concerter avec les habitants. Continuer parce que nous avons fait des réunions publiques dans tous les quartiers où beaucoup de gens étaient venus. Mais là, nous arrivons à fin juin, nous choisirons le lauréat, l'architecte en chef qui mènera l'aménagement de ce quartier, c'est-à-dire qui de Ricardo Beaufil, de Jean Nouvel, de Christian de Porzampar, etc., sera l'architecte en chef de ce quartier. Et pour que cet architecte, eh bien, il fasse des choix qui correspondent aux aspirations des habitants et de la municipalité, eh bien, nous ouvrons une phase de dialogue. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? Une procédure inédite. Nous avons tiré au sort 10 000 Montpelliérains et Montpelliéraines inscrits sur les listes électorales, donc de 18 à 13 âgés, pour leur proposer de venir participer à des ateliers pour travailler sur l'aménagement du projet EAI. Comment on se déplace? Comment on loge? Comment on fait la mixité sociale, la mixité générationnelle? Quelle place? Comment s'organisent les espaces publics? Et donc, nous avons proposé aux gens de venir travailler dans des ateliers, finalement faire un peu des exercices d'urbanisme pour imaginer la fabrication de la ville. Comment on ouvre par rapport à l'avenue de Toulouse? Comment on la requalifie? C'est-à-dire, à la fois exprimer des propositions et puis aussi comprendre les enjeux. Voilà, tirage au sort. Et enfin, une implication des scolaires. Les jeunes, parce que les jeunes, ils habitent la ville, mais eux, ils votent pas, mais ils ont pas d'association, mais pourtant, ils en ont une idée. Hein, ils le disent des fois, oui, mais moi, monsieur, je comprends pas, je peux pas aller à l'école à pied, je peux pas rentrer de l'école à pied, du collège à pied. Bah, ça, c'est une parole qu'il faut aussi savoir entendre. Je la cite, mais il y en a d'autres. Donc, on va faire travailler aussi dans les établissements scolaires avec les professeurs, Collège de la Croix d'Argent, Foncarade, le lycée Clémenceau, qui sont à proximité du site. Et bon, on va faire travailler sur le réaménagement de l'œil. Et à un moment donné, ça vous fait un rendu. Et ça, le rendu, la municipalité, elle le reçoit et elle le donne aussi à l'équipe, aux équipes qui travaillent pour définir le projet. Donc, ça permet de pouvoir capter, entendre la parole des habitants.
Tout au long de notre existence, de notre naissance à notre mort, nous vivons dans l'architecture, une architecture pensée par des hommes, pour des hommes. Peut-être encore plus que d'autres moyens d'expression, cette architecture est le témoin d'une époque, d'une société ou bien encore d'un style de vie.
Alors deuxième processus, parce qu'on souhaite que cette parole, on l'entende sur beaucoup de thèmes. Vous le savez, la ville de Montpellier a lancé une démarche dite de projet urbain. Le projet urbain de Montpellier, quand Georges Frêche est devenu maire, Montpellier doit aller vers la mer. Voilà, ça a été cet engagement et nous continuons ce projet en fidélité aux volontés qu'a eu Georges Frêche parce qu'il reste encore des choses à faire. Mais en même temps, nous, on arrive aux limites de la commune. Et donc, il faut aussi s'interroger sur quel projet aussi pour l'ensemble des quartiers de Montpellier. C'est-à-dire ce qu'on a fait plutôt de bien, de réussi le long du Lèze. Eh bien, comment est-ce qu'on essaye aussi de l'apporter dans d'autres quartiers? Donc, quelle stratégie nous avons? Alors pour ça, on a fait appel à une grande équipe d'urbanisme, des Italiens, Bernardo Secchi et Paola Vigano, dont la conférence est en ligne sur le site internet de la ville. J'invite vos auditeurs à aller l'écouter, ça permet de comprendre son approche. Et parce que nous voulons avoir une attention pour l'ensemble des quartiers, eh bien, on va également, on ne peut pas redéfinir les quartiers place des habitants. Donc on va organiser des balades urbaines, l'urbanisme avec les pieds. Marcher dans la ville, marcher dans certains endroits de la ville pour regarder comment celle-ci existe, comment celle-ci fonctionne, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, quels problèmes se posent là, appréhender cette complexité. Donc le samedi, il y aura une balade urbaine. Et puis ensuite, à la Maison de la Démocratie, à proximité de la gare, desservie par le tramway, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, eh bien, l'urbaniste avec sa tête et son crayon pour pouvoir eh bien, regarder les plans, les cartes, essayer de voir comment on peut faire évoluer la ville, ou pas. D'ailleurs, parce que des endroits, il ne faut pas que ça bouge, c'est très bien, il faut savoir aussi. Ça. Mais on sait qu'il y a des endroits aussi, ça doit s'améliorer. Et donc, un travail là-dessus, donc ce sera ouvert, et qui voudra venir, pourra venir. Et enfin, tous les jeudis, un café débat sur un thème autour de la ville. Comment la ville, et moi j'y suis très attaché, devient l'une des villes les plus respectueuses de l'environnement en Europe. Comment elle réussit la transition énergétique. Comment la ville exprime la solidarité. Comment on loge les gens. Comment la ville crée de l'emploi. Donc, quelle place pour l'activité économique et quelle dynamique. Et donc, voilà. Et le 7 mai, des grandes assises au Quorum, où les Montpelliérains seront naturellement invités, et où là, on commencera à tirer les premières conclusions. Et puis, le 18 octobre, il y aura un livre, Montpellier 2040, qui sera le fruit du travail des équipes d'urbanistes, d'un dialogue avec beaucoup d'acteurs, les professionnels, le monde économique, les élus, mais aussi les habitants. Donc on pourra venir et ça, ce sera disponible sur le site internet de montpellier.fr.
Pour préciser là sur ce point, ce sera juste une vision, hein, le livre donc, au mois d'octobre, ce sera une vision de 2040 de Montpellier.
Ce sera plutôt un cap, plutôt des objectifs. Voilà, il ne s'agit pas, ça ne se décrète pas comme ça, mais c'est en tout cas un cap et une méthode pour pouvoir améliorer la qualité de vie dans la ville. Voilà. Et où est-ce qu'il faut aller travailler? Et comment est-ce qu'éventuellement on peut travailler pour faire en sorte que notre ville, Montpellier, eh bien, nous puissions avoir les scénarios qui nous permettent de réussir cette équation. Nous savons par l'INSEE que nous allons continuer à gagner des habitants. C'est ainsi. Donc nous, il faut s'y préparer. Mais la contrepartie, c'est que s'il y a des nouveaux habitants qui arrivent, il faut que la qualité de vie des habitants existants s'améliore. Et c'est ça le sens du projet urbain. C'est ça. Donc c'est plutôt quel cap et quelle méthode pour le mettre en œuvre. Alors, est-ce que ce sera de nouveau un axe, nous allons vers la mer et c'est là où tout se passe? Probablement pas. Parce que nous sommes aussi conscients aujourd'hui qu'il faut être attentif à pas qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre la partie est de la ville et la partie ouest. Qu'il faut avoir une attention pour l'ensemble des quartiers de la ville. Pour éviter que soit les promoteurs qui disent ben voilà, là ça se passe comme ça et puis c'est pas autrement. Non, non, pour qu'il y ait bien une pensée qui s'imprime sur la ville. Et donc, c'est une vision, en tout cas, ce sera une énoncé d'un projet ambitieux pour la ville de 2040 qui devra répondre à cette équation pour qu'on essaye de ne pas faire n'importe quoi. Croyez-moi, les villes qui n'ont pas de stratégie en matière d'urbanisme, eh ben, ça vous fait des flaques urbaines où aujourd'hui il y a plein de problèmes. Et à Montpellier, on a la culture du projet. Et il faut qu'on continue à avoir cette culture du projet et un projet qui est élaboré collectivement, où les habitants, ils ont aussi une place.
L'architecte a donc une grande responsabilité, c'est lui qui doit offrir à l'homme un cadre de vie dans lequel ce dernier puisse s'épanouir, en quelques circonstances ou en quelques lieux que ce soit. Un appartement, un bureau, une usine, un stade ou bien encore un hôpital.
Terminé avec une dernière consultation, la Pompignane, mais là qui s'adresse qu'aux habitants de la Pompignane.
Alors oui, un exemple de quartier. On pourrait dire, il n'y a rien à faire là-bas, tout se passe bien, enfin, ou rien ne se passe. Non, les Pompignan, il se passe des choses. Il se trouve que le quartier a été en tension ces derniers temps. Et que les habitants ont dit, Madame le maire, la municipalité, il faut faire quelque chose. Et donc, on a proposé une reconfiguration urbaine de ce quartier. Et alors, en même temps, cette reconfiguration urbaine, elle prend du temps. Mais elle ne peut pas se faire sans les gens qui habitent ce quartier-là. Parce que quand elle se fait sans, elle n'est pas comprise. Elle n'est peut-être pas juste parce qu'on va peut-être se tromper. Et donc là, on a dit, on va mobiliser l'outil numérique, les écrans, les iPads, pour essayer de proposer aux habitants de ce quartier des options d'aménagement de leur propre espace. Et je crois aussi que ça, c'est une méthode qui est intéressante parce qu'elle permet aux habitants entre eux de dialoguer sur leur propre quartier. Parce qu'à Pompignan, trouver un endroit pour aller faire du théâtre dans l'espace public, installer une chorale, organiser la fête de la musique. Cherchez bien. Il n'y en a pas. Et là-bas, il y a un enjeu autour de l'espace public. Donc de créer des places, créer des lieux de convivialité. Mais ça, c'est quand même mieux de le faire en lien avec les habitants. Et là, on a trouvé une méthode assez innovante. Ça nous a valu d'ailleurs un prix de l'innovation dans la concertation autour du numérique. Voilà, parce que ce qu'on souhaite, et pour conclure, la concertation, il y a des gens qui viennent dans les réunions publiques. Mais nous, notre ambition, c'est de continuer à avoir ces gens, bien sûr, mais aussi d'aller en chercher d'autres, voilà, pour qu'ils participent. Le jeune, l'ancien, celui qui n'a pas idée que tout cela existait. Donc, vous voyez, méthode du tirage au sort, usage du numérique, lieu ouvert le dimanche, possibilité de déposer une contribution écrite. Bref, tout un dispositif pour essayer de capter la parole la plus nombreuse de la part des habitants, qui fera l'objet de synthèse avec, voilà, certains pensent ça, d'autres pensent ça, et puis à un moment, ben, y a des choix. Et ces choix, ben, ils appartiennent aux élus, parce qu'ils ont, c'est la démocratie représentative, et puis à un moment, aux électeurs, devant le suffrage universel. En tout cas, gageons que si on fait un peu plus de démocratie participative, la confiance entre les citoyens et leurs représentants, elle, sera accrue.
Elle existait, cette démocratie participative, notamment avec les comités de quartier. Alors, c'est justement parce que ça ne suffit pas, les comités de quartier, c'est pas suffisamment représentatif que vous lancez ce genre de consultation.
C'est un supplément. Voilà, bien sûr, il y a un premier niveau de discussion, de travail avec des gens qui acceptent très, très généreusement, parce qu'ils donnent du temps, la reconnaissance est assez ingrat, de s'impliquer dans la ville, mais de pouvoir étendre ce dispositif. Et d'ailleurs, eux-mêmes sont demandeurs. Quand on les a réunis et qu'on leur a présenté l'idée d'organiser des balades urbaines, d'organiser des ateliers avec des habitants, ils ont été plutôt séduits, parce qu'ils ont dit, mais là, on approfondit les choses. Donc il ne s'agit pas de... on ne fait pas du passé faisant table rase, comme dit la vieille chanson, mais au contraire, de renouveler l'ambition. Voilà, excusez-moi, il ne faut pas que Montpellier... Il ne faut pas qu'on ait une approche conservatrice des choses, il faut qu'on ait une approche innovante. Il n'y a rien de pire dans une société quand les gens ne se parlent plus. Dans une société, comme dans un couple, comme dans une famille. Alors dans une ville, il faut qu'on soit capable de pouvoir se parler, surtout quand on parle de l'avenir de la ville.
Parlons-nous.
Parlons-nous, vous l'aurez compris, il faut se parler. Le dialogue a des vertus que même l'aspirine ne possède pas. Plus de renseignements, évidemment, sur www.montpellier2040.fr. Dans quelques jours, nous sommes le 22, dans 3 jours, eh bien, ce sera le 25. Le 25 janvier 2013, ce sera la deuxième édition du Black Sheep Festival. Une programmation toute léchée pour cette deuxième édition. Va encore y avoir du monde sur Louis Blanc, World, Fusion, Kraut et Hip-Hop vont faire transpirer les inconditionnels des voûtes veloutées du Mouton Noir. Eh bien, il y aura notamment ce vendredi 25, Etioda, du jazz éthiopien. Il y aura Jonah qui fait son abstract hip-hop et qui est un turntabliste de première bourre. Il y aura la noise du singe blanc et puis l'indie pop de Patriotic Sunday. On va écouter aussi un extrait de ce qu'il y aura le samedi, puisque après le beatbox de Tioneb, à voir absolument, il y aura le space rock, crowd rock de Deschamps. Et on va d'ailleurs... en écouter un extrait. Non, on va d'abord écouter les Early Puppets avec Mad Alton, et ça, c'est du rock.
We'll be right back.
c'est les Early Puppets avec leur noise psyché et trans qui seront en deuxième partie de ce festival du Black Sheep, deuxième édition. Ce sera ce samedi 26. La veille, il y aura le jazz éthiopien des Montpelliérains d'Ethioda. Il y aura Jonah, excellent turntablist, abstract hip-hop, le singe blanc pour de la noise et les Patriotic Sunday pour de l'indie pop. À propos des Early Puppets, dont la bio est en anglais d'ailleurs, sur leur MySpace, allez comprendre. Après plusieurs années d'errance dans les caves montpelliéraines en distillant ici et là leur mixture éclectique de progressive rock, de rock sudiste et de musique expérimentale, les Early Puppets ont évolué. Ils ont mûri à travers des improvisations incontrôlées et des compositions personnelles. Depuis 1854, la même passion les unit. Ils sont trois actifs donc, sur Montpellier et profitent de leurs multiples expériences avec des groupes précédents et des side projects pour s'influencer par divers genres de musique. Ils sont trois, en l'occurrence, au chant Martin van der Brandhof, sans doute pas un montpelliérain de souche, Étienne Gros-Claude au chœur et au clavier et Pierre-Alexandre François à la batterie. Autre groupe que vous pourrez écouter dans le cadre de ce festival du Black Sheep, ce sera toujours ce samedi 26 et ce sera le Space Crowd Rock de Deschamps, de son prénom Laurent, qui est accompagné par Alexa au clavier et à la basse. Et non, vous n'en sortirez pas vivant. C'était Laurent Deschamps du Space Rock que vous pourrez retrouver samedi 26 sur la scène du Black Sheep dans le cadre de la deuxième édition de leur festival qui, je vous le rappelle, démarre vendredi avec quatre groupes: Etioda, Jazz Éthiopien, Jonah, Turntablist, Abstract Hip-Hop, Le Singe Blanc, Noise et The Patriotic Sunday. Et puis pour samedi, le beatbox de Tioneb, le Space Rock qu'on vient d'écouter, et les Early Puppets qu'on écoutait auparavant, ainsi que Pylone. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur divergence-fm.org, bien évidemment. Verdins avec ce Gougou Muck. Ils seront en concert ce vendredi 8 février. Le 8 février, ce sera un concert exceptionnel dans le cadre du vernissage de l'exposition à la galerie Le Mat, organisée par le collectif Construct, Guillaume Bouzard, Ambré, Pierre Dubas. Tout ça s'inscrit eh bien, dans le micro-festival, mais aussi dans les 20 ans de Six Pieds Sous Terre et autres, avec eh bien, de, on va dire, on en parlera d'ailleurs le 5 février avec les organisateurs du micro-festival. Ce festival qui, au départ, était consacré à la musique expérimentale, contemporaine, et puis au texte, à la poésie, etc. Un petit peu une version intimiste de sonorité dont ils se réclament finalement être les dignes descendants. Et puis de la rencontre avec, avec mes deux invités, à savoir Julie Jourdan pour les éditions Six Pieds Sous Terre, qui donc fêtent leurs 20 ans, et puis Christophe Bauer de l'atelier Entrée Libre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est suite finalement à une rencontre autour de cette idée de micro-édition, de texte, de transdisciplinarité en quelque sorte, que la rencontre s'est nouée et que finalement tout ce programme assez vaste a été mis en place.
Absolument. Bah, c'est surtout grâce à Nicolas Claveau qui a lancé une idée à Julie, qui travaille beaucoup avec Six Pieds Sous Terre. Et au final, comme Julie est toujours très généreuse et gentille et qu'elle pense à tout le monde, et ben, elle est venue nous voir aussi avec Nicolas à l'atelier Entrée Libre. Et ils nous ont invités également. Et à partir de là, on a agrandi les cercles en permanence.
Oui, c'est exact. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Effectivement, ça a été une rencontre avec Nicolas Claveau, également avec la libraire Un Jardin des Livres qui souhaitait fêter et marquer les 20 ans de Six Pieds sous Terre à Montpellier. Et je ne suis pas sûre que ce soit que de la générosité. C'est aussi le flip de faire les choses un peu seul. On n'est pas nombreux, on a déjà beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'est tout naturellement qu'on s'est retourné vers Entrée Libre, quoi.
Avec un programme sur l'affiche duquel on voit une cinquantaine de noms, tous évidemment graffités de façon particulière. Est-ce que tous les noms qu'il y a sur l'affiche vont être représentés lors des différents rendez-vous, puisque le premier rendez-vous c'était mercredi dernier, mercredi 16 janvier, lors du vernissage de l'exposition Six Pieds sous Terre, l'animal à 20 ans, qui est à voir jusqu'au 11 février au Diagonale.
Alors effectivement, on a eu la chance de pouvoir avoir accès à ce lieu prêté gentiment par le Diagonale pour pouvoir montrer sur Montpellier cette expo qui tourne depuis maintenant un an, je pense. Depuis avril dernier, en fait, elle a été montée pour les 20 ans à Toulouse, hein, qu'on a fêté là-bas. Et donc on est vraiment super content de pouvoir enfin la montrer dans cette ville qui est quand même la ville dans laquelle est née Six Pieds sous Terre, oui. Jade, il y a 20 ans, et donc pour nous c'était assez important, quoi. Donc voilà, c'était cool, il y avait plein de monde, il y avait effectivement notamment Fabrice R, qui est un des protagonistes du livre anniversaire, et la personne qui a travaillé sur l'exposition, qui condense un petit peu ce livre, voilà, qui a été mise en place par lui, puis Nicolas Moog aussi, qu'on retrouvera sur le micro-festival.
Voilà. Combien de d'œuvres sont visibles sur cette expo au Diagonale?
Alors, il y a plus de 20 témoignages visibles de 20 auteurs différents, parce que c'est un recueil de témoignages, en fait, qui constitue ensuite l'historique de la maison d'édition. Je vais pas m'amuser à les citer, sinon je vais en oublier, ça va être la catastrophe. Mais voilà, c'est vraiment une exposition narrative qui résume un petit peu la naissance de la maison, le fonctionnement de la maison et le rôle de cette maison, surtout vis-à-vis des auteurs en fait qu'elle représente.
Qui sont nombreux, comme l'affiche en témoigne. Ce mercredi 6 février, par la suite, aura lieu donc le vernissage de l'exposition de Christo et Jean Jouvert, Les Sentinelles de l'Imaginaire. Ce sera au Caprice, l'ancien bar du musée qui garde cette étiquette indécollable de BDM. Christo et Jean Jouvert, des auteurs aussi de Six Pieds?
Ah, pas du tout.
Pas du tout, là.
Pas encore, je sais pas.
Non, derrière Christo, c'est moi, en fait.
Ah, voilà. Mais c'est le problème avec les organisateurs qui ont aussi la casquette d'artiste, c'est que
voilà,
on sait jamais.
Puis c'est tous les pseudos qu'on s'invente aussi pour faire nos différentes activités. Oui, avec mon pote Yann Jouvert, on a créé une série de science-fiction BD depuis 2 ans, qu'on auto-édite à travers notre microstructure aussi à nous, les éditions du Voyeur, qui sort également une revue de cinéma qui s'appelle Peeping Tom. Donc nos deux bébés, c'est la revue de cinéma, Peeping Tom, et Les Sentinelles de l'Imaginaire, une série de science-fiction qui a raison de 2 numéros par an, sous un format un petit peu comics, propose une espèce de feuilleton de science-fiction complètement délirant, Les Sentinelles de l'Imaginaire. Et là, donc, le 6 février, dans la continuité de tous les événements liés au micro-festival, on va faire effectivement un vernissage, je l'espère, fort sympathique au Caprice Bar du Musée, le 6 février, à partir de 19h, pour la sortie de l'épisode numéro 4, qui sortira tout chaudement des presses. Et on invite également tous les fans de la série ou les non-fans, s'ils ont envie de se joindre à nous, aussi de venir déguiser comme certains personnages de la bande dessinée, parce qu'il y a plein de figures, ils sont très visuels, très graphiques, donc il y a matière à faire des beaux costumes et à venir faire la fête.
Donc sortez vos tissus, votre fil, votre aiguille et confectionnez-vous de sympathiques costumes, des costumes qui pourront déambuler toujours le 6 février vers l'analogue où à 21h30 aura lieu I Was a Teenage Movie Freak, musiques et bandes annonces du temps jadis, proposé par Pierre-Henri de Castelpouille et Twin Selector. De quoi ça va-t-il s'agir ?
Alors ça, c'est une soirée dite Six Pieds sous Terre. Voilà, les plus anciens se rappellent certainement de Pierre-Henri de Castelpouille qui faisait les chroniques cinématographiques de Jade à l'époque. voilà, qu'on est allé rechercher à l'occasion des 20 ans dans son placard avec son costume tout miteux et qui nous recombine quelques soirées. On lui a fait rencontrer Twin Selector, la sauce a prise et donc ils vont nous faire une petite soirée dédiée aux séries Z ou ces cinéma série Movie Bay. Et voilà, présentation de genre avec musique de genre. Ça devrait être une soirée bien drôle comme on les aime, quoi.
Absolument. Rendez-vous à 21h30 ce mercredi 6 février. Là, ce sera à l'Analogue. L'Analogue qui se trouve, comme chacun le sait,
quartier en face Boutonnet. De l'ancien Puy du Temple.
En face de l'ancien Puy du Temple, quartier Saint-Roch, alors plutôt.
Voilà.
Voilà.
Le dans jeudi. La rue des Sœurs Noires, exactement.
Voilà, dans la fameuse rue des Sœurs Noires, celle où il y a les petites bornes peinturlurées. Exactement. Le jeudi 7 février de 10 à 16 heures aura lieu un atelier rencontre à propos de la micro-édition. Ce sera toute la journée, ce sera à la baignoire. La micro-édition qui est un phénomène récent ou pas tant que ça finalement ? Parce que les premiers fanzines, c'était de la micro-édition en quelque sorte.
Bah voilà, donc c'est pour ça, si on prend après le terme fanzina, c'est sûr que là on peut remonter effectivement
40 ans.
Du moment que quelqu'un se met dans l'idée d'imprimer un papier et avec ses propres moyens sans passer par une structure préétablie, je pense qu'on était déjà dans la micro-édition. À partir de là, bon, effectivement, c'est un terme, je pense, en tant que lui-même micro-édition, qui est un petit peu plus un peu plus moderne, qui est venu peut-être après le mot fanzina, qui a eu une grande popularité dès les années 60, 70, etc. Et du fait de l'émergence aussi de vraies structures, de vrais éditeurs qu'on a appelés par extension éditeurs indépendants.
Bon, alternatif maintenant.
Ou alternatif, voilà. Bon, ça, après, c'est les problèmes de vocabulaire. Et en contrepartie de ça, toujours, j'ai envie de dire, certainement sur le même côté, à côté des éditeurs indépendants, il y avait aussi tous les gens qui, n'étant pas encore publiés par des éditeurs indépendants, se disaient, bon, bah, de toute façon, je vais faire moi-même mon truc dans mon coin. Et comme ça s'est tellement multiplié, c'est pour ça aussi qu'on parle de micro-édition, quoi.
Et puis ça fait un petit peu, il y a un côté un peu plus professionnel peut-être dans le fait d'être un micro-éditeur plutôt que de photocopier des collages qu'on fait avec du papier. Il y a peut-être aussi le côté de l'outil numérique qui a peut-être remplacé la Roneo et le scotch et le ciseau pour donner un petit côté un petit peu plus professionnel. C'est pas parce qu'on est alternatif qu'on est 5 gus dans un garage, comme aurait dit notre ancienne ministre de je sais plus quoi.
Non mais c'est certain, et puis c'est souvent une volonté de l'auteur lui-même de s'auto-éditer et de ça n'a rien d'amateur en fait comme démarche, c'est vraiment souvent aussi des choix personnels d'assumer son travail de A à Z. Et effectivement, le développement et le fait que les outils numériques soient un peu plus abordables, les impressions numériques soient un peu plus abordables, bon bah ça a changé de la photocopieuse, ça permet un plus grand nombre. Voilà, puis il y a beaucoup aussi de petits salons qui se développent autour de ce mode de travail, quoi, et d'édition et de diffusion. Donc oui, là, ça évolue avec les techniques, c'est certain, mais je pense que le côté professionnel, c'est sûr qu'il est bien présent. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, c'est vraiment le vivier du renouvellement des grandes
tendance.
Maisons commerciales. Ouais. C'est là qu'ils vont chercher le renouveau, quoi.
Absolument. Et ce laboratoire permanent sera l'occasion de rencontrer les acteurs de cette micro-édition toute la journée à la baignoire ce 7 février de 10 à 16 heures, heure à laquelle 16 heures, c'est Entrée Libre qui investira les lieux pour présenter une sélection et une présentation de livres. Peut-être qu'on peut dire un petit mot de Entrée Libre.
Oui, c'est un atelier qui existe maintenant depuis 3 ans à Montpellier, dans le centre-ville, derrière le Rebuffy, 2 rue du Bail. C'est un atelier où donc il y a à peu près 11 artistes, surtout des dessinateurs, illustrateurs et peintres. Et disons, des gens qui effectivement se retrouvent aussi dans toutes ces notions de micro-édition, qui développent leur travail sur place, parce que c'est un lieu de travail, c'est donc un atelier, c'est aussi un lieu d'exposition pour les gens qui sont là, donc c'est aussi un concept de galerie, et puis c'est aussi le lieu où ils peuvent, disons, marchander un petit peu leur travail avec des clients potentiels. Mmh. Voilà. Et donc, depuis 3 ans, le personnel à l'intérieur tourne, parce qu'il y a des gens qui restent un certain temps et puis qui sont appelés vers d'autres horizons. Donc, ça ne cesse de se renouveler en permanence. Et voilà, là, à travers le micro-festival, on va avoir l'opportunité aussi de montrer notre travail sous différentes formes et dans différents lieux.
Je précise que ce laboratoire permanent aura lieu jeudi 7 à la baignoire de 10 à 16 heures, mais aussi vendredi 8 et samedi 9 aux mêmes horaires. Toujours le jeudi 7 à 20 heures, le laboratoire électrique sera à la baignoire. Une performance restitution des ateliers de circuit bending qui auront lieu les 2, 3 et 6 février. Ça se passera à Kawenga, du circuit bending et émetteur FM. Il faut s'inscrire pour les samedis 2 et dimanche 3, car de 10 à 16 heures 30, on fera conception et transformation d'appareils sonores. Et puis le 6 février, de 10 à 16 heures 30, ce sera une pratique sonore collective avec ce que vous aurez transformé. Toujours à Kawenga, il faut s'y inscrire, kawenga.org, pour s'y inscrire. Ce sera, on va dire, la restitution, la livraison de ce qui aura été fait ce jeudi février numéro 7, on va dire, à 20 heures. Le lendemain, vendredi, toujours le même rendez-vous de 10 heures à 16 heures pour le laboratoire permanent pour rencontrer les micro-éditeurs. 16h-19h, présentation de livres notamment Sophie, la libraire du micro-festival BIS, qui sélectionnera dans ses rayons des ouvrages micro-édités ou autoproduits. Il y aura du 6 pieds sous terre et sûrement quelques auteurs aussi.
Alors je ne sais pas, je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de cette partie-là aussi. Je sais juste qu'elle va élargir un peu plus sa sélection au-delà de la bande dessinée en soi. Elle va vraiment sélectionner des ouvrages qui lui sont chers, des auteurs en littérature, je ne sais pas s'il y en aura. Après, je pense qu'il y aura bien quelques auteurs de 6 pieds sous terre qui iront traîner par là-bas, ça c'est quasiment certain, oui.
Absolument, toujours ce vendredi 8 février, il y aura le concert de Lionel Garcin, sax solo à 19h. Le vernissage de l'exposition à la même heure, il faudra faire un choix à la galerie Le Mat avec les collectifs Construct, Guillaume Bouzard, Ambre et Pierre Dubas. Et un concert exceptionnel de The Verdins que nous allons d'ailleurs écouter. Pour la petite histoire, ce groupe faisait partie des tout débuts de 6 pieds sous terre. C'était des membres, des sympathisants?
Non. Nicolas, il est un petit peu jeune encore pour avoir... Je pense qu'il l'a lu un peu au berceau, c'est certain, Jade, etc. C'est un auteur de 6 pieds maintenant, depuis, je ne sais pas, un peu moins d'une dizaine d'années. Et c'est vrai que nous, on est complètement fans de The Verdins. C'est un groupe qu'on apprécie énormément. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de les amener avec nous, on ne la rate pas.
Et on écoute Eau écarlate.
De ces bois.
consommer avec modération, ça fait des trous dans les poumons et dans la cervelle. C'était The Verdins qui seront donc en concert exceptionnel ce vendredi 8 février à 19h. Ça sera dans le cadre de l'exposition à la galerie Le Mat. L'exposition, le vernissage de cette exposition des collectifs Construct, Guillaume Bouzard, Ambre et Pierre Dubas. Par la suite, eh bien, ce sera retour à la baignoire pour ce vendredi 8 avec les concerts de Yannick Guédon et du duo de percussionnistes Le Coin Loïc pour de la musique de John Cage. Et puis samedi 9, il y aura un rendez-vous matinal à 10h30, un brunch à la librairie Un Jardin de Livres avec donc Nicolas Moog et ses invités Pierre Dubas, Fab Caro, Fabrice Herr, Guillaume Gers, James, Émilie Plateau et Gilles Rochier. Petit brunch sympathique pour un samedi matin.
Absolument. Bon, j'espère que 10h30 ne sera pas trop tôt, ni pour eux, ni pour nous, ni pour le public. Mais on espère qu'il viendra nombreux, d'autant plus que Sophie va accueillir une expo de Nicolas Moog pendant jusqu'au 2 mars, très exactement. Voilà, donc ça, c'est nouveau aussi sur Montpellier. C'est la première fois qu'on va pouvoir voir son travail de sérigraphie et autres perles. Mmh. Voilà, donc venez nombreux, ça sera forcément sympathique. Vous pourrez découvrir son travail si vous ne le connaissez pas encore. Et vraiment, ça vaut le détour.
Et toujours le samedi 9 février de 13h à 22h, ce coup-ci à la galerie Saint-Ravi. Ce sera micro-édition, micro-production et méga-workshops avec les artistes et auteurs présents. Ateliers divers et variés, prévus et imprévus, gratuits et ouverts à tous. C'est plutôt sympa la galerie Saint-Ravi qui est pas, où on voit rarement des travaux d'édition ou de bande dessinée.
Ouais, là c'est l'occasion rêvée, là un super week-end avec effectivement un workshop géant où on invite absolument tout le monde de 7 à 77 ans à venir mettre les mains à la pâte, dans les encres les plus différentes qui soient et dans les ateliers les plus fous les uns que les autres. Et effectivement, en même temps, on va investir les murs et les tables pour montrer tous nos travaux.
Voilà, et puis pendant les 3 jours du festival, d'ailleurs, sera réalisé un ouvrage qui sera réalisé collectivement par tous ceux qui y participeront. Et puis on fait un petit saut au dimanche 10 février où de 10h à 17h, il y aura une grande gougerie, mais casaco, à la maison de la gravure méditerranée de Castelnau-le-Lez. Un grand workshop de gravure à la gouge, ouvert à tous, même aux débutants. Réalisation de gravures sur bois à plusieurs et impression dans la journée. La gouge qui sert à ramasser les asperges quand elle est grosse, mais qui sert aussi à travailler le bois quand on est ébéniste.
Voilà. Absolument, ils ont voulu se joindre à cette histoire de micro-festival parce qu'ils se sentaient un petit peu concernés par ce genre de production. Donc après, c'était un peu compliqué de déplacer les presses jusqu'à la salle Saint-Ravi. Du coup, ils restent dans leur mur et sont ouverts à tous. Et effectivement, c'est des grandes plaques collectivement gravées et imprimées dans la foulée. Voilà, j'espère qu'on arrivera à avoir des petits décrochages sur le micro-festival. On est en train de réfléchir un petit peu à tout ça, la possibilité d'obtenir des petites presses pour pouvoir aussi en faire à la galerie Saint-Ravi.
Et on revient à la veille au samedi 9 à la galerie Saint-Ravi où si on préfère fabriquer des marionnettes, eh bien on pourra fabriquer sa marionnette, apporter une vieille chemise à manches longues, un ou deux objets de récup, des vieux pinceaux, une cuillère, une fourchette, une boîte de conserve ou ce que vous voulez et repartez avec votre marionnette. Une marionnette, c'est un peu long à fabriquer, alors l'atelier se déroulera sur 2 après-midi et sera limité à une dizaine de participants. Il y aura aussi un atelier de fabrication d'un livre carré-collé pour 7 participants. Maximum, ça durera une après-midi et puis un atelier faisage d'amis, non pas pour utiliser les outils de réseaux sociaux ou soi-disant sociaux, mais il s'agira d'amener un grand carton, de peindre un ami dessus, de découper sa silhouette et de rentrer avec son ami chez soi. Ça c'est si mignon.
Oui, ça c'est un grand classique de l'atelier entrée libre qui existe depuis son origine, qui est effectivement juste d'amener un grand carton, de peindre son propre ami à soi et de repartir avec une fois qu'on a découpé la silhouette et qu'on l'a évidemment peinte. Et il y aura aussi d'autres ateliers autour pour faire son propre fanzine, des choses plus classiques comme faire des badges. Et j'oublie certainement d'autres ateliers.
Et puis un atelier intéressant, un atelier clopin.
Oui, voilà.
Amène un paquet de cigarettes, déplie-le, peins-le et j'imagine replie-le et repars à la maison avec un clopin.
Voilà, alors ça c'est une invention de Matt Conture qui est un auteur qui est assez connu, enfin que les auditeurs connaissent certainement.
Absolument.
Et c'est l'une des dernières idées de Matt, qui, je sais pas. Par contre, l'origine exacte, je ne sais pas comment l'idée lui est venue, mais lui, il a tellement d'idées que voilà, lui seul le sait. Mais donc, il prend des paquets de cigarettes, il les déplie, ce qui fait une surface à partir de là plane sur laquelle il arrive à dessiner dedans un corps humain, un corps de femme, un corps d'homme. Et donc, il a créé comme ça toute une série, là encore, de personnages qu'il a fini par appeler des clopins. Et l'idée est effectivement tellement lumineuse, tellement poétique et tellement belle qu'on invite les gens à faire de même. Et donc, il y aura un atelier clopin pendant le week-end du 9 et du 10 février à la Galerie Saint-Ravi, effectivement.
Que les enfants qui ne fument pas se rassurent, j'ai ramené plein de vieux paquets de clopes à découper pour l'atelier clopin.
Oui, parce que ça ne marche pas trop avec des paquets de cigarettes en chocolat. D'ailleurs, voilà. Des cigarettes en chocolat qui ne sont plus du tout commercialisées, sans doute parce que ça faisait mauvais genre. Que voulez-vous ? Tout se perd, ma bonne dame. Même Lucky Luke mâchouille un brin d'herbe au lieu de fumer sa clope, ce qui est quand même un pur scandale. Voilà, on a fait le tour des plus grands rendez-vous. On vous rappelle aussi qu'en parallèle et tout autour de ça, eh bien, l'exposition Six pieds sous terre, l'animal à 20 ans au cinéma Diagonale est à voir jusqu'au 11 février. Que l'exposition de Christophe Bauer avec les éditions du Voyeur pour les sentinelles de l'imaginaire au Caprice BDM, c'est jusqu'au 20 février. Et que l'exposition au MAT, à la galerie Le MAT, se poursuit jusqu'au 23 mars. Donc là, on aura vraiment le temps de la voir.
Et l'expo Nicolas Moog, un jardin des livres, jusqu'au 2 mars.
Eh bien voilà, tout est dit. On vous souhaite une excellente santé pour tenir le choc tout au long de ces rendez-vous qui ne vont pas vous laisser trop le temps de dormir. Julie Jourdan, Christophe Bauer, merci beaucoup.
Merci
je rappelle qu'on peut retrouver toutes ces infos sur micro-festival.com. Et puis on va se quitter avec The Verdins. C'est le titre J'en ai rêvé, mais Sony ne l'a pas fait car Sony c'était un autre artiste, c'était une autre chanson qui n'avait rien à voir avec The Verdins. On va se terminer cette auberge espagnole comme ça en remerciant Bruno Bertrand qui a réalisé cette émission qui est une production Divergence FM qui vous souhaite de passer une belle fin de journée et plus si affinité. Salut.
Devant nous les pièges à l'eau.